John Galliano est le maître incontesté du polygraphe au pays. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle primordial dans plusieurs affaires policières qui ont fait les manchettes. En 1979, un couple est retrouvé sans vie dans sa résidence incendiée. Les policiers réalisent rapidement qu'il s'agit d'un double meurtre.
Ils ont constaté deux cadavres calcinés.
Le feu n'a pas pris accidentellement. Ils s'aperçoivent qu'il y a un accélérant qui a été mis dans la cuisine et dans le salon et sur les corps.
Le principal suspect possède un alibi en béton, mais les enquêteurs le convainquent tout de même de rencontrer John Galliano.
Il y avait une confiance inébranlable à son alibi, parce que c'était une bonne alibi.
En 1979, John Galliano se trouve à Chicago pour faire analyser les résultats d'un important test polygraphique qu'il vient de réaliser. Pendant son séjour dans la ville des vents, il reçoit un appel lui demandant s'il peut rentrer au Québec. Des enquêteurs ont besoin de ses services pour une affaire de meurtre.
S'il se demandait si c'était un dossier qu'on pourrait faire au polygraphe, j'ai dit sûrement. Et comment offrir le test?
À ce moment-là, la polygraphie, il y avait seulement qu'un polygraphiste qui était John Galliano. Là, on lui avait expliqué le cas. Il dit, attendez-moi, je descends.
J'ai, à ce moment-là, coupé court mon voyage à Chicago. Et j'ai pris l'avion, je crois, le lendemain, pour revenir à Montréal, pour me préparer pour le test.
L'enquête en question est celle sur la mort du couple Boutillette, survenue le 12 avril 1979. On a retrouvé leur corps calciné dans les décombres de leur résidence incendiée. Les policiers sont convaincus qu'il s'agit d'un acte criminel.
Les pompiers de Saint-Hyacinthe sont appelés pour un incendie à Saint-Dominique, d'une maison privée. Rendus sur les lieux, ils maîtrisent le feu, mais il était trop tard pour sauver les victimes. Sur les lieux, les enquêteurs, eux autres, découvrent que le feu n'a pas pris accidentellement. Ils s'aperçoivent qu'il y a un accélérant qui a été mis dans la cuisine et dans le salon et sur les corps. Suite à ça, demande d'assistance de la Sûreté du Québec avec les crimes contre la propriété à Montréal.
Au départ, l'enquête, les gens se demandaient si c'était pas un meurtre suivi d'un suicide, une chicane de famille. Mais l'enquête démontrait que ces gens-là s'entendaient très bien et que financièrement, il n'y avait aucun problème et qu'ils avaient un enfant à 8 ans.
Les corps ont été transportés à la morgue de Montréal pour autopsie. On a découvert que les deux corps avaient des traces de balles.
L'autopsie confirme que le couple a bel et bien été assassiné et qu'on a tenté de faire disparaître les preuves en mettant le feu à la maison. En quête d'un mobile pour ce meurtre apparemment gratuit, les policiers s'attardent à un autre incendie, survenu cette fois-là au restaurant que possédaient les victimes. L'histoire implique un électricien du nom de Robert Chicoine.
Ce qui est arrivé, c'est que M. Robert Chicoine avait fait le contrat électrique à l'extension du restaurant pour faire une cabane à sucre. Je ne sais pas si c'est le jour de même, le lendemain, tout a brûlé. Et il y a eu une action qui a été prise contre Robert Chicoine par Michel Boutillette parce qu'il n'avait pas utilisé le bon filage, paraît-il. Donc, on l'actionne et il y a quelqu'un qui a mentionné à un enquêteur que ça pourrait être la cause.
On enquête d'abord la famille. Qu'est-ce qui entoure les deux victimes? Comment ces gens-là étaient avant leur décès? Est-ce que c'est des bonnes gens? Est-ce qu'ils ont des bonnes fréquentations? Compagnie d'assurance? Est-ce qu'ils ont des gros montants d'assurance? On ne connaît pas d'ennemis de ce couple-là. C'est des gens sans histoire. Le seul suspect qu'on avait dans lui, qui pouvait avoir des mobiles pour faire ça, c'était Robert Chicoine.
Les enquêteurs interrogent Robert Chicoine, mais ils réalisent rapidement que l'homme possède un alibi en béton pour le matin du 12 avril. Il effectuait alors des travaux électriques chez des clients.
En l'interrogeant, il nous donne un alibi. On vérifie l'alibi. L'alibi est conforme à ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il a été monté l'alibi, on ne sait pas, mais on est devant une corroboration de sa part par deux témoins qui, au moment du meurtre, étaient à cet endroit-là.
Il y avait un alibi parfait depuis le matin. Donc, ça ne pouvait pas être lui.
Fait qu'à ce moment-là, si lui n'est pas impliqué, soit qu'il l'ait fait faire. Mais par qui?
Le polygraphe ne peut être imposé au suspect. Le test se fait uniquement sur une base volontaire. Les enquêteurs doivent donc convaincre Robert Chicoine de s'y soumettre.
À ce moment-là, nous avons arrivé avec une stratégie. Comment offrir le test à la personne? Lui, dans sa version, M. Chicoine disait aux enquêteurs que ça pourrait être n'importe qui. Il disait que M. Boutillette était très dur avec ses employés et que ça pourrait être n'importe quel de ses 50 employés qui ont travaillé pour lui qui aurait pu faire ça. Et à ce moment-là, l'enquêteur Jacques Marceau, qui était une sommité au Cameroun de personne, lui a alors demandé s'il serait d'accord qu'on passe tout le monde au polygraphe. Chicoine trouvait que c'était une bonne idée. Fait que Marceau, il a dit « Good, on va commencer avec toi ».
Lorsque Robert Chicoine se présente quelques jours plus tard dans le bureau de John Galianos à Montréal, il ne semble pas particulièrement heureux de passer le test. Son attitude n'échappe pas au polygraphiste.
Lorsqu'il est entré dans la salle de polygraphie, je voyais une attitude négative. Encore là, pas confiance au test. Ça va sûrement dire que c'est moi qui ai fait ça. Des commentaires qu'on entend à l'occasion qui sont en train de justifier le résultat du test. Donc, dès le départ, je voyais que ça allait pas bien pour lui.
Suivant la procédure, le polygraphiste n'aborde pas immédiatement l'affaire avec son interlocuteur.
Comme dans tous les tests polygraphiques, on débute par un test de calibration. À l'époque, c'était des cartes rouges avec un petit numéro à l'intérieur. On demande à la personne de choisir un numéro et on va lui demander de toujours dire non, même au numéro qu'il a choisi. Mettons qu'il aurait choisi le numéro 6. Vous choisissez le numéro 4. Non. Numéro 2. Non. Il y a 15 secondes entre chaque question. Là, vous choisissez le numéro 6. Non. Et assez souvent, ce que je veux faire, moi, j'aime faire, c'est de montrer le graphique. Voici, ça, c'est ta réaction à 4, 6. Et où ta plus grande réaction? C'est ici. C'est quoi qui est écrit en dessous? Numéro 6. Donc, le numéro que tu as choisi, c'est numéro 6. C'est-tu bien ça? Oui. Encore là, la personne véridique, très heureuse de ça. Hey, ça fonctionne réellement. C'est bon. Es-tu prêt de ton prochain test? Oui, monsieur. Alors que souvent, le coupable, c'est l'inverse. Il est pas heureux de ça. J'ai demandé à M. Chicoine s'il connaissait l'arme qui avait causé la mort des Boutillettes. J'ai aucune espèce d'idée.
En 1979, suite à un double meurtre, John Galianos rencontre Robert Chicoine pour un test polygraphique. L'homme est le seul qui semble avoir un mobile pour le crime, mais il possède un bon alibi. John Galianos décide donc de procéder à une forme de test bien particulière appelée « test de connaissance des faits ».
Il y avait une confiance inébranlable dans son alibi, parce que c'était une bonne alibi. Sauf que ça n'empêche pas d'avoir émis le contrat. Ça n'empêche pas d'avoir demandé à quelqu'un de le faire. Donc, j'ai pris une chance. Je me suis dit peut-être que la personne qui a fait ça lui aurait signifié l'arme à feu. Peut-être qu'il connaît l'arme à feu. Et finalement, j'ai décidé de faire le test de connaissance des faits.
Ce test consiste à demander au suspect s'il est au courant de certaines informations bien précises que seul quelqu'un associé au crime peut connaître. Pour le meurtre des Boutillettes, il s'agit du calibre de l'arme utilisée.
Lors du briefing avec les enquêteurs, je leur ai demandé quel était le calibre de l'arme qui a causé la mort de M. et Mme Boutillette. On m'a dit, je le sais pas. Pourriez-vous le savoir? Oui, ça va prendre 15 minutes. Ils ont monté en haut, ils ont été voir l'expert en balistique. L'expert en balistique a confirmé que c'est une arme à feu de calibre 25.
John Galianos va utiliser cette précieuse information pour mener son interrogatoire. Selon lui, le test de connaissance des faits est d'une redoutable efficacité.
Je suis très heureux de ça, parce que c'est le test de connaissance des faits, c'est le test le plus fiable en polygraphie. Malheureusement, selon les statistiques du FBI, ce genre de test-là, le test de connaissance des faits, n'est utilisé que dans 13 % de le dossier dans l'année qu'ils ont fait la vérification. Pourquoi? Parce que l'information est brûlée dans les médias. On va demander à quelqu'un, connais-tu le calibre? Ben oui. Comment ça, tu sais ça? Journal de Montréal.
le Khalil n'a pas connu de personne, excepté des policiers, puis de l'expert en balistique.
John Galianos compte vérifier avec le polygraphe si Robert Chicoine connaît le calibre de l'arme utilisée par le meurtrier des Boutillettes. Mais il doit auparavant s'assurer qu'aucun autre facteur n'influence le résultat du test.
Si vous m'avez dit, oui, écoutez, j'ai déjà vendu des armes à feu. J'ai mon père, il y a une shop d'armes à feu. J'ai vendu toutes sortes de calibres d'armes à feu. Ça me dit toute quelque chose, mais à ce moment-là, on ne peut pas faire ce test-là. Si vous me dites, ben oui, un 25, j'ai déjà eu ça, on ne peut pas faire le test. Il faut aller à un autre genre de test. J'ai demandé à M. Chouane s'il connaissait l'arme qui avait causé la mort des Boutillettes. J'ai aucune espèce d'idée. Es-tu d'accord, Robert, que si la personne qui connaît le calibre va réagir là-dessus? Oui, sûrement, mais comme je t'ai dit, moi, je n'étais pas là.
Comme Robert Chicoine n'a apparemment aucune raison valable de réagir d'une façon particulière à l'énoncé du calibre 25, John Galianos débute le test. La façon de procéder est relativement simple.
Voici le test que je vais faire. Je vais te demander, est-ce une arme à feu de calibre 44 qui a causé la mort des Boutillettes? Est-ce une arme à feu de calibre 12 qui a causé la mort des Boutillettes? Est-ce une arme à feu de calibre 25 qui a causé la mort des Boutillettes? La personne qui connaît le calibre va réagir au calibre 25. Une personne qui ne connaît pas le calibre va réagir pareil, surtout. Donc, le seul mot qui change, c'est le calibre. La phrase ne change pas. Donc, son attention psychologique, son set psychologique, va aller sur le calibre qu'il connaît, s'il connaît le calibre.
Lors du test, Robert Chicoine réagit fortement à l'énoncé du calibre 25. Mais pour s'assurer qu'il n'y a aucun doute possible quant au résultat du polygraphe, John Galianos interroge le suspect plus d'une fois.
Et le test est fait à trois reprises. On place le calibre 25 ailleurs, le calibre 32 ailleurs, le calibre 38 ailleurs, 44 ailleurs lors du deuxième test. Il réussit le calibre 25. Là, aujourd'hui, c'est avec l'ordinateur. Fou. À l'époque, c'était sur papier. Puis c'était tellement... On voyait la grosse réaction. 25, grosse réaction. Donc, il reconnaissait le calibre. Mais on le fait une troisième fois, au cas que ce soit une réaction accidentelle. À calibre 25, très grande réaction encore une fois. Donc, j'étais convaincu qu'il connaissait le calibre. Il y en a qui vont dire, bien, polygraphe, c'est pas bon. Mais comment voulez-vous qu'une personne innocente qui n'a aucune idée du calibre, réagisse tout le temps à calibre 25?
Les graphiques sont si clairs que John Galianos les montre immédiatement à Robert Chicoine, qui a beaucoup de difficultés à nier l'évidence.
Évidemment, quand que j'ai montré les graphiques, il a réalisé que ça avait bien du bon sens. Il réagissait seulement à calibre 25. Donc, déjà là, c'est un effet dévastateur.
Après avoir vu les graphiques, Robert Chicoine est ébranlé, mais il n'avoue pas être impliqué dans le meurtre des Boutillettes. Pour obtenir une confession, le polygraphiste tente de l'amadouer. Il évite soigneusement de le blâmer, rejetant plutôt la faute sur les victimes et le tueur que Chicoine a engagé pour faire le sale boulot à sa place.
Après quelques minutes d'entrevue, en rejetant le blâme sur la victime pour l'avoir actionné, et deuxièmement, la personne qui l'a approché pour faire le meurtre, le double meurtre, cette personne-là aurait dû lui dire « Va donc voir un psychiatre. » On ne serait pas assis ici aujourd'hui, là, s'il avait fait ça. Fait que c'est lui qui devrait être assis ici. Comment qu'il s'appelle, cette personne-là? Monsieur, comme hier, il me répond « Suis-je obligé de donner son nom? » Fait que j'ai dit « J'aimerais ça savoir. »
Quelqu'un de la mafia, tout ça, il est plus endurci à ça. Mais pour Joe Public, là, qui est un certain moment donné, il est pris avec un meurtre, il y a une tension, une grosse tension. C'est un soulagement. Tous les détails qu'il pouvait nous donner sur le complice, l'arme, le mobile, c'est là qu'il faut tout prendre. Parce qu'à ce moment-là, comme on dit, le fruit est mûr. Quand on va trouver le tueur, en rentrant, on lui a demandé où c'est le gun. Il savait pas mal pour ça. On en savait un bout, hein?
Suite à un double meurtre survenu en 1979, John Galianos interroge le principal suspect des enquêteurs, Robert Chicoine. L'homme a un bon alibi, mais le test de connaissance des faits effectué au polygraphe démontre clairement qu'il connaît le calibre de l'arme utilisée par le meurtrier.
C'était tellement clair, sans être polygraphiste, là, n'importe qui peut voir que la réaction était toujours ce qui s'était marqué 25.
Robert Chicoine donne le nom de son complice à John Galianos. Il s'agit de Régent Chauvette. Suite à cette information, les policiers procèdent immédiatement à son arrestation.
Quand on va trouver le tueur, à ce moment-là, on a tout. Lui, en rentrant, on lui a demandé où c'était le gun. Il savait pas mal qu'on en savait un bout. Hein.
L'arme du crime est cachée chez Régent Chauvette, mais lorsque ce dernier apprend que Robert Chicoine l'a balancée, il avoue immédiatement son crime aux policiers.
Chauvette devait de l'argent à Robert Chicoine. Il devait 45 000. Il n'était pas capable de le payer. Il dit, c'est pas correct. Il dit, moi, j'ai un service à te demander. J'écoute, il y a un gars qui va m'actionner, tranquille. J'aimerais que tu le passes. Dit, moi, je suis pas capable de faire ça. Il dit, écoute, là, t'as pas le choix, non. Il s'en prie. Il a peur pour lui et pour sa femme de se faire passer lui également.
Régent Chauvette explique également aux enquêteurs que l'arme retrouvée chez lui appartient en fait à Robert Chicoine et qu'il lui aurait fourni pour qu'il tue les boutillettes.
La raison qu'il réussit à calibre 25, c'est que Chauvette lui avait dit « J'ai plus de gun. Prends le mien. » Donc, il connaissait le calibre. C'était son arme à lui qui avait causé la mort.
Enfin, Chauvette informe les enquêteurs que le plan initial de son complice était encore plus cruel.
Dans les instructions que M. Chicoine a données à Chauvette, c'est de se rendre là le matin, de bonne heure. Avant que le jeune, âgé de 8 ans, je crois à l'époque, avant qu'il prenne l'autobus scolaire. Et Chauvette lui aurait demandé pourquoi l'enfant. Il ne veut pas que personne m'actionne. Donc, dans le plan, c'était de causer la mort de M. et Mme Boutillette et l'enfant de 8 ans.
L'enfant aurait venu faire quoi même dans l'action? Ça n'avait aucun sens qu'il fasse une demande semblable. Mais tu voyais un peu le genre de criminel qu'il peut être comparé à Chauvette.
Chauvette se présente plus tard que prévu chez les Boutillettes pour épargner l'enfant, mais il n'épargne malheureusement pas le couple. Le coup a été soigneusement préparé.
Débarque avec une boîte contenant le revolver et une assiette. Parce que le motif qu'il avait dit qu'il voulait le voir, c'était pour y vendre la vaisselle pour sa nouvelle cabane à sucre qu'il devait faire reconstruire. En arrivant, il lui montre une assiette. À ce moment-là, Chauvette sort son revolver et lui tire deux balles. Et Madame lui tire une ou deux balles. Il avait apporté au préalable de la gasoline pour mettre le feu à la demande de Robert Chicoine pour faire disparaître les papiers qui étaient le chose du litige. Avec la gasoline qu'il avait dans son auto, revient dans la maison, étend la gasoline dans le salon et dans la cuisine, sur les corps, et met le feu.
Comme il a joué un rôle important dans la confession de Robert Chicoine, John Galianos est appelé à témoigner lors de son procès.
Dans cette affaire, j'ai eu à témoigner à Saint-Hyacinthe. Il y a eu un procès. Il a été accusé de procès de meurtre. M. Chicoine a été trouvé coupable par la Cour supérieure. Je crois qu'il a été sentencé à la prison à vie.
Régent Chauvette est venu témoigner contre Robert Chicoine pour expliquer tout le scénario qui avait été préparé. Et ça a aidé à condamner Robert Chicoine.
Malgré sa collaboration avec la justice, Régent Chauvette sera jugé pour meurtre au second degré. Il sera condamné à un minimum de 18 ans de pénitencier. Pour les enquêteurs au dossier, il ne fait aucun doute que John Galianos et son polygraphe ont fait une énorme différence dans cette affaire.
Le polygraphe, c'était le déclencheur. Après que John, d'une certaine manière, a réussi son test, puis il a prouvé que le test était bon, qu'il mentait. C'est à ce moment-là que ça a tout dénoué l'enquête parce qu'on était bloqué.
Ce qui est spécial dans ce dossier-là, c'est que le maître Foupart, qui me défendait, trentaine d'années après, m'a appelé pour faire un test polygraphique de chacun des dossiers. Fait que j'étais heureux de ça.